Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des barricades, des jets de bouteilles contre des flashballs. La soirée a été violente à Barcelone, moins de 48 heures après la condamnation de 9 indépendantistes catalans. Nous irons sur place pour savoir si cette colère peut durer.
Nous rejoindrons ensuite notre correspondante à Hong Kong, où la chef du gouvernement a dû quitter le Parlement en urgence ce matin. Les élus et militants pro-démocratie l'ont mise dehors.
Médecins sans frontières se retirent du nord de la Syrie. Face au combat entre les Turcs et les Kurdes, l'ONG ne peut plus travailler sans danger, vous l'entendrez.
Dans cette édition encore, témoignage d'une mère de famille de Saint-Denis en région parisienne pour avoir dénoncé le trafic de drogue. Elle est menacée et harcelée depuis des mois.
À la fin de ce journal, Frédéric Saïs se demandera pourquoi plus personne ne veut diriger un parti politique. Billet politique à 8h16. Certains manifestants se comparent aux Hongkongais qui se battent pour la démocratie. Ils étaient 40 000 à Barcelone, 9 000 à Gérone, des centaines à Tarragone ou à Lérida hier. Manifestations qui se sont à chaque fois terminées en affrontements violents sous l'impulsion d'une minorité de manifestants. Récit de la soirée avec Juliette Jay à Barcelone.
Des barricades et des dizaines de feux de poubelle, c'est l'image qui restera de la manifestation à Barcelone sous haute tension. Vers 21h, des indépendantistes violents ont jeté des bouteilles et des canettes sur les policiers qui ont chargé, utilisant gaz lacrymogène et flashball. Bianca s'est réfugiée dans un bar.
J'ai peur de la police. Ils foncent avec les fourgons et courent après les manifestants pour les disperser. Tout à l'heure, je m'étais enfermée dans le métro parce que si tu sors dans la rue, ils peuvent te frapper alors que tu n'as rien fait.
Francesc, pris dans un mouvement de foule, est aussi apeuré. S'il est contre la violence des manifestants radicaux, il pense que le gouvernement a une part de responsabilité.
On doit courir car la police arrive et elle me fait vraiment plus peur que les manifestants. Moi, je voulais une révolution pacifique, mais au final, les gens en ont assez. Ça fait des années qu'on lutte pour notre liberté. On voulait un dialogue et il n'existe pas.
Trois interpellations ont eu lieu et à 1h du matin, les policiers tentaient de disperser les 400 individus violents encore présents dans le centre-ville.
Juliette Jay, que nous retrouvons ce matin. Juliette, peut-on penser ce matin que ces violences qui se multiplient depuis 2 jours maintenant vont durer ?
Savoir si ces violences vont durer, on ne peut pas encore le dire, mais pour ce qui est des manifestations, c'est certain. Ce n'est que le début d'une vague de rassemblements qui va durer toute la semaine, à commencer par demain avec les Marches pour la Liberté. Ce sont 5 itinéraires d'une centaine de kilomètres chacun qui vont relier des villes catalanes comme Gérone ou Tarragone à la capitale Barcelone d'ici vendredi. Parmi les randonneurs, on retrouvera des membres des familles des prisonniers catalans qui seront à l'avant des cortèges. Vendredi également, jour de grève générale en Catalogne, toujours pour protester contre cette sentence de la Cour suprême espagnole, une grève qui pourrait être mobilisée au-delà des plus de 50 000 Catalans qui étaient présents dans les rues hier soir.
Merci Juliette Jay depuis Barcelone pour France Culture et j'ajoute que le gouvernement espagnol dénonce lui une violence généralisée. Le ministre des Affaires étrangères à Madrid, qui est catalan, parle même d'une attitude totalitaire de la part des manifestants. Josep Borrell est le futur chef de la diplomatie européenne. Cela relève-t-il de la provocation ou de la lutte pour la démocratie ? À Hong Kong également, les habitants descendent dans les rues par milliers contre le pouvoir chinois. Et ils peuvent compter sur le soutien des élus pro-démocratie. Lors de la rentrée parlementaire ce matin, ces derniers ont poussé la chef du gouvernement à quitter le bâtiment sous la protection des gardes du corps. Récit signé Dominique André.
Hué par plusieurs parlementaires du camp pro-démocratie, Carrie Lam a tenté à 2 reprises ce matin de prononcer son discours, mais incapable de prendre la parole dans cette cacophonie, elle a dû se replier. Des manifestants habillés en noir ont même réussi à entrer dans l'hémicycle. Cette situation est sans précédent dans l'histoire parlementaire du Hong Kong, commentent déjà les experts locaux. 5 demandes, pas une de moins, ont crié les pro-démocrates dans l'enceinte du Parlement. Parmi elles, le suffrage universel, l'amnistie pour les manifestants arrêtés, une commission pour faire la lumière sur les violences policières et la démission de Carrie Lam. Ce matin, la chef de l'exécutif local de Hong Kong est contrainte de prendre la parole par vidéoconférence. C'est un camouflet sévère pour Madame Lam, qui espère toujours que son plan social, qui concerne surtout le logement, va calmer la crise hongkongaise, la pire que traverse l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine il y a 22 ans.
Et autre camouflet pour Carrie Lam et pour Pékin, hier soir, les démocrates américains ont adopté une loi sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong. Un texte qui lie le respect de la démocratie aux aides économiques américaines dont bénéficie la mégalopole. Le pouvoir chinois se dit ce matin indigné. Là aussi, les États-Unis utilisent la menace économique pour faire plier l'adversaire. Face à l'offensive turque en Syrie, le président Donald Trump a décrété une série de sanctions, comme la hausse des tarifs douaniers sur l'acier turc. Hier soir, le président turc Recep Tayyip Erdogan n'en avait que faire. Lui rappelle qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu en Syrie. Mais les Turcs à Istanbul, eux, sont dans l'ensemble plus inquiets. Leur quotidien, leur pouvoir d'achat se détériore à Landlower.
Il y a bien sûr les Turcs comme Sinan, auxquels les sanctions de Donald Trump ne font ni chaud ni froid.
Les Américains ont toujours essayé de créer des crises dans notre pays et nous, nous serons toujours là pour le protéger de notre corps. Nous n'avons peur de personne.
Mais derrière la bravade, les sanctions frappent là où cela fait mal, l'économie, la fragile économie turque, qui a déjà beaucoup souffert l'an dernier d'une crise avec Washington. L'inflation mène la vie dure à des millions de Turcs comme Aliye, une retraitée.
Est-ce que notre économie n'était déjà pas suffisamment mal en point? Je vois pas comment je vais m'en sortir. Je touche 1500 livres de pension, je paye 1300 livres de loyer. Que ceux qui nous dirigent viennent voir comment on survit avec 200 livres par mois.
Les autorités turques publiaient justement ce mardi les derniers chiffres du chômage. Près de 14% en juillet, en hausse de 3 points par rapport à l'année dernière. Berkan, ingénieur sans emploi, envisage de s'expatrier si la situation empire.
J'ai de moins en moins d'espoir pour l'avenir de mon pays. Nous sommes de plus en plus isolés politiquement, économiquement, nous prenons du retard sur les autres. Il n'y a plus grand-chose qui puisse convaincre les jeunes comme moi de rester.
Pour l'instant, les mesures américaines, relativement symboliques, semblent n'avoir qu'un impact limité sur le cours de la monnaie turque et donc sur l'économie. Cela pourrait changer vite si Washington décrète une nouvelle série de sanctions.
Et on en saura probablement plus dans les jours qui viennent, puisque le vice-président américain Mike Pence s'envolera aujourd'hui pour Ankara. Il sera accompagné du chef de la diplomatie Mike Pompeo. Sur le terrain maintenant, pas de cessez-le-feu, je vous le disais. Les Kurdes contre-attaquent, tandis que leur allié, l'armée syrienne, est entrée dans Manbij pour repousser les Turcs hier. Au milieu des tirs, Médecins sans frontières a décidé de se retirer. L'ONG suspend toutes ses activités dans le nord-est de la Syrie. Décision difficile mais salvatrice, selon Hakim Kaldi, il est coordinateur Moyen-Orient chez Médecins sans frontières.
C'est une décision qui est très difficile à accepter, mais on est obligé de la prendre parce que la condition numéro un pour être utile, c'est d'être en vie pour fournir des soins de santé. On avait environ une centaine d'expatriés, on supportait des hôpitaux. On avait des activités dans des camps de déplacés. Il y avait déjà des besoins auxquels on répondait. Il va y avoir des besoins supplémentaires du fait de l'offensive militaire. Donc oui, on aurait eu une utilité dans la situation d'aujourd'hui. On est inquiet pour le personnel syrien avec qui on a travaillé depuis 2013 et qui est resté dans la zone parce que on ne sait pas trop s'ils vont pouvoir rester et bénéficier d'une protection ou s'ils vont devoir quitter la zone et dans les zones où ils vont trouver refuge, s'ils vont toujours pouvoir bénéficier d'une protection.
C'était le témoignage d'Hakim Kaldi de MSF au téléphone de Sébastien Sabiron. Les tractations s'intensifient à Bruxelles à 2 semaines de la date prévue pour le Brexit. Elles ont duré ces tractations toute la nuit et vont reprendre ce matin. Britanniques et Européens tentent toujours de trouver un accord avant le début, demain, du Conseil européen à Bruxelles. Pour parer à toute éventualité, les autorités françaises, pendant ce temps, multiplient les tests grandeur nature. Que faire une fois le Royaume-Uni parti ? Hier, dans le port de Cherbourg, les douanes ont vérifié les poids lourds venus de Grande-Bretagne sur les ferries. Il en arrive 20 000 par an, rien que dans le Cotentin, Anthony Rimbaud.
Les camions sortent en file indienne du ferry et face à eux, des agents font le tri. Des camions dirigés vers un circuit vert, d'autres suivent une ligne orange peinte sur le sol. Décodage avec Yannick Millet, le directeur général du port de Cherbourg.
Alors vert, ça veut dire je vous autorise à sortir, vous êtes en règle. Et orange, vous avez des contrôles complémentaires à faire à la sortie.
Et chaque chauffeur découvre sa couleur sur le ferry. En fait, les douanes profitent des 4 heures de traversée pour analyser la liste des marchandises déclarées dans chaque camion au moment de l'embarquement en Angleterre. En fonction de la nature des produits ou des éléments envoyés,
Certains, pas tous, devront se plier à un contrôle plus poussé, comme ce poids lourd emmené dans un hangar spécialement aménagé sur le port. Un douanier inspecte tous les cartons empilés dans la remorque. Le conducteur lituanien fait les frais de cette répétition générale pour le Brexit, un changement aux frontières qu'il appréhende.
Ça pose des problèmes, on perd du temps avec les contrôles.
S'il n'y a pas de problème, ça ne dure que quelques minutes, répondent les douanes. D'ailleurs, assure le transporteur Brittany Ferries, le temps d'escale du bateau n'augmentera pas à cause du Brexit. C'était la priorité de son président Jean-Marie Rouet pour ne pas perdre de clients.
Tous les ports sont en compétition. Là, on rajoute une difficulté complémentaire. Tout ce qui est fait en amont permet de limiter le travail de la douane au moment du débarquement du navire et donc évite que les camions soient en attente de débarquement.
2 ans de réflexion, plus de 10 millions d'euros dépensés pour préparer le port de Cherbourg au Brexit. Et tout est prêt désormais pour un divorce le 31 octobre.
Anthony Rimbaud de France Bleu Cotentin pour France Culture. Alors, quel divorce ? Avant le Conseil européen de demain, Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel vont se retrouver aujourd'hui à Toulouse. Ils évoqueront le Brexit, mais également l'industrie et les enjeux climatiques. Ce sera le premier Conseil des ministres franco-allemand depuis la signature du traité d'Aix-la-Chapelle en janvier dernier.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coq-Réal dans les matins. Une sortie scolaire a été annulée dans l'Oise au motif que 2 accompagnatrices parents d'élèves portaient un voile.
Oui, annulé ce lundi dans une caserne de pompiers sur décision d'un des pompiers. Le SDIS a finalement évoqué une erreur d'interprétation et prône maintenant l'apaisement. C'est en tout cas une preuve du flou ambiant sur ce sujet, de retour sur la scène médiatique depuis le week-end. La droite veut légiférer sur le port du voile. La majorité se déchire à ce propos. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a rappelé la primauté de la loi, loi sur le port du voile qui existe déjà dans les écoles, primauté sur la laïcité également. Jeu d'équilibre dans lequel le Premier ministre insiste sur la nécessité également de combattre les dérives communautaires. À Saint-Denis, au nord de Paris, certaines mères de famille sont loin de ces débats sur le voile, préoccupées plutôt par les violences qu'elles subissent au quotidien pour avoir osé parler. Depuis le printemps dernier, elles se réunissent chaque matin pour faire une chaîne humaine autour de l'école de leurs enfants. Elles veulent lutter contre le trafic de drogue. Un combat qui a été très médiatisé et qui leur vaut aujourd'hui des insultes, menaces, représailles. Agira Mohamed a rencontré Constance, l'une de ces mères de famille. Elle raconte son calvaire au quotidien.
D'abord, il y a eu les insultes et les menaces après la diffusion des reportages.
Je suis insultée de baveuse, de connasse, de chienne, de ce qui s'ensuit. Qu'on va me frapper, qu'on va me brûler. Tous ceux qui ont parlé, voilà, on va vous brûler. Et j'étais avec ma gamine de 16 mois.
Et depuis quelques semaines, le harcèlement presque tous les soirs.
On vient sonner à mon interphone jusqu'à des minuit, 1h du matin. Ou quand parfois je rentre de mon travail et je viens trouver des personnes devant la porte d'entrée, pas de mon bâtiment, mais la porte d'entrée de chez moi, et comme ça plusieurs jours, c'est de l'intimidation.
Sans oublier les pneus de sa voiture crevée, malgré une main courante déposée au commissariat, Constance est inquiète pour elle, mais surtout pour ses 2 enfants. Aujourd'hui, elle veut quitter le quartier et même la ville.
Ça oui, partir, j'ai envie de partir, parce que je suis fatiguée, parce que je n'en peux plus.
Et quand on lui demande pourquoi, elle accepte malgré tout, malgré les risques de nous parler.
Mais parce que j'ai de l'espoir, je veux encore espérer que ça va changer quelque chose, parce que ce serait ça, me taire, ça voudrait dire qu'ils ont gagné. Mais donc, pour ne pas les laisser gagner, je dois aller jusqu'à où ? Je dois aller jusqu'à perdre moi ma vie, je dois aller jusqu'à mettre mes enfants en danger. Donc justement, clairement, je fais quoi ?
Les autres mamans menacées, elles, refusent de s'exprimer désormais dans les médias, trop effrayées et trop désabusées aussi, selon Constance. Elles se disent que de toute façon, ça ne sert plus à rien.
Et sur Internet, une pétition a été lancée pour demander aux bailleurs et à la mairie de Saint-Denis le relogement en urgence de ces familles menacées. Des pompiers face à des policiers, face à face rare et tendue hier dans les rues parisiennes. Entre 5 et 10 000 pompiers professionnels, selon les chiffres des syndicats, ont manifesté. Ils dénonçaient le manque d'effectifs, manque de reconnaissance également, mais des incidents avec les CRS ont éclaté à la fin de la manifestation. Suite du procès autour du scandale du Mediator à Paris, on attend aujourd'hui le témoignage d'Irène Frachon, pneumologue à Brest, lanceuse d'alerte. Mais hier déjà, le docteur Georges Chiche, cardiologue marseillais, a été entendu. Il avait, lui, dès 1998, alerté sur le premier cas de valvulopathie. Le retrait du Mediator n'est intervenu que 10 ans plus tard. La faute à la dépendance des médecins vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, dit-il. Le docteur Chiche reconnaît tout de même aujourd'hui quelques récentes avancées.
Il y a un point qui vient d'être acquis, c'est que les jeunes étudiants en médecine, qui sont en milieu universitaire, il faut qu'ils soient épargnés de l'industrie. Il ne faut pas qu'ils soient au contact de l'industrie pour pas prendre des mauvaises habitudes quand ils seront plus grands. Il y a des facultés américaines nous ont interdit le contact entre les externes et les internes, les étudiants, et l'industrie. Et mes étudiants américains dans certaines facultés, dans le serment d'Hippocrate, ils ont rajouté, à la fin du serment, « no free lunch », pas de repas gratuit. Et ça y est, c'est en train d'arriver en France. J'assiste aux petites conférences qu'on fait à la Timone tous les mois avec les internes. Et là, la dernière conférence, en général à la fin, il y a toujours un cocktail offert par le laboratoire qui présente son étude, que je critique vivement, mais enfin on rigole. Mais à la fin, il y a quand même pizza, machin, enfin. Et là, cette fois-ci, il y a un mois, le délégué médical présentait son cas et elle a dit à la fin, il n'y aura pas de cocktail, c'est interdit maintenant. J'ai pleuré de joie et j'ai dit aux étudiants pourquoi c'était interdit. Et ils ont compris ce que je voulais dire, en disant il faut avoir les mêmes propres. L'industrie nous aide à fabriquer des bons médicaments. On ne crache pas sur l'industrie. Ils sauvent des vies. Ils font de la recherche. Il n'y a rien à dire. Ils nous aident tous les jours, tous les jours. Mais ils n'ont pas besoin de nous faire la pizza gratuite.
Un témoignage recueilli par Florence Turm qui suit pour France Culture le procès sur le scandale du Mediator. En attendant une nouvelle perturbation pluvieuse qui arrive par le nord-ouest, le ciel sera globalement ensoleillé ce mercredi. Ce matin, il fait 13 degrés à Besançon, 14 à Brest, Lille et Lyon, 15 degrés à Paris et Bordeaux, 20 degrés sous le soleil de Nice et de Corse.